Bienvenue dans Médiatique, l'émission d'information proposée par France Lime sur l'antenne de RCF 61. Le mois dernier, nous avons diffusé la première partie d'une interview de Muriel Vessier-Tossa consacrée aux bartonnelles. Dans cette deuxième partie, on revient sur l'agent de la maladie dite des griffes du chat, mais on élargit avec la découverte de plusieurs autres espèces pathogènes pour l'homme qui pourraient bien être véhiculées par les tiques. Donc, on va faire un petit retour en arrière. Bartonella encelae, c'est l'agent de la maladie de la griffe du chat. Et encore aujourd'hui, dans les cours de médecine, on enseigne que cette maladie est transmise à l'homme par la griffure d'un chat qui aurait des bactéries donc, sur les griffes, les bactéries qui seraient présentes à cause des déjections des puces qui salissent son pelage. Et donc, c'est le schéma qui est admis communément. Et vos travaux ont montré que l'homme pouvait être contaminé par la piqûre d'une tique. Donc, est-ce qu'on peut dire que les gens qui n'ont pas de chat, qui n'ont jamais été griffés par un chat, peuvent avoir la maladie de la griffe du chat ?
Alors, ils peuvent être infectés par Bartonella, et en particulier Bartonella encelae, mais ils ne vont pas développer ce qu'on appelle la maladie des griffes du chat, hein, avec des symptômes très spécifiques, pour le coup, pour la maladie des griffes du chat. En fait, ils vont être infectés par la même bactérie, mais développer d'autres symptômes. Un peu comme ce qu'on a vu pour la maladie de Carrion, ou la fièvre d'Oroya et la verruga peruana, qui étaient des symptômes différents, en fait, d'une même maladie. En fait, ça se passe la même chose. Les symptômes... ne sont pas les mêmes.
Alors justement, on va en venir à une deuxième étude qui pointe justement ce problème-là. Juste avant, parler un petit peu aussi des réservoirs de la bactérie, puisque là, on vient de découvrir quand même un nouveau vecteur possible pour cette bactérie. Alors, est-ce qu'on peut aussi imaginer que, au niveau du réservoir, la vision, le réservoir, c'est le chat, ça peut être un petit peu plus compliqué que ça aussi ?
Alors, les réservoirs de Bartonella encelae, ce sont les félidés sauvages de manière générale, donc sauvages ou domestiques, les félidés de manière générale. Et donc, c'est le chat, mais c'est aussi le chat sauvage, ça peut être des lynx, ça peut être des lions. Bon, il y en a très peu quand même en France, mais voilà, donc c'est plutôt les félidés. En revanche, on en a malgré tout trouvé de manière accidentelle chez d'autres animaux, notamment par exemple chez le chien. Alors là, on a identifié il n'y a pas très longtemps, dans un article qui est paru il y a 2 ou 3 ans, chez un chien en fait qui était infecté par Bartonella encelae, qui était malade. En fait, on s'est aperçu que ce chien vivait avec un chat qui était lui-même infecté par Bartonella encelae, et du coup, le chien avait été contaminé par le chat. C'est pas strict à 100% quand je vous dis que Bartonella encelae a pour réservoir les chats ou les félidés, mais on peut en retrouver ailleurs, mais en règle générale, c'est chez les chats.
Par contre, ce qui est de plus en plus évident, c'est qu'il existe toutes sortes d'espèces de bartonelles qu'on ne soupçonnait pas. Et justement, donc, on va passer à la deuxième étude à laquelle vous avez participé, mais cette fois-ci, c'est une étude qui avait aussi un volet médical, qui n'était pas juste basé sur la détection d'un organisme dans une tique, mais qui avait aussi une partie médicale et qui était suivie aussi par, en particulier, le professeur Didier Raoult, qui travaille à l'université d'Aix-Marseille, et puis le docteur Philippe Raymond du réseau Chronimed, et en association donc avec vous. Et en fait, là, il s'agissait de chercher des bartonelles, mais dans le sang de patients, d'isoler ces bartonelles et de les identifier. Alors, ces malades, ils étaient choisis comment dans l'étude ?
Alors, en fait, la genèse, avant de vous répondre directement à cette question, en fait, on a monté cette étude parce que, donc, on avait montré dans notre laboratoire un système complètement contrôlé, artificiel, finalement, que la tique, elle pouvait transmettre ces bartonelles. Mais il y avait toujours des sceptiques pour dire que peut-être que, bon, d'accord, on l'avait montré en laboratoire, mais que peut-être que dans un milieu naturel, ça se passait pas comme ça et que, en fait, il y avait pas forcément de malades qui étaient atteints de Bartonella après piqûre de tique. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des patients qui avaient été donc piqués par des tiques, en fait, depuis un certain nombre de temps, qui présentaient depuis plusieurs années des symptômes. Alors, ces symptômes étaient en général des symptômes chroniques et assez peu spécifiques, et qui étaient séronégatifs pour la maladie de Lyme. Donc, en fait, l'idée, c'était de prendre des personnes pour lesquelles on pensait qu'elles n'étaient pas infectées par Borrelia et qu'elles pouvaient être infectées par d'autres choses, et en particulier par des bartonelles. Mmh. Et puis, donc, on a pris ce groupe-là, et puis on a pris un autre groupe qui était... sachant que ces patients, en fait, ont été recrutés sur toute la France... Et on a pris un autre groupe qui était des donneurs de sang anonymes, mais qui étaient par définition en bonne santé, hein, puisque lorsqu'on donne son sang, il y a tout un questionnaire et en général, on donne son sang si on est en bonne santé. Voilà, et on a utilisé ces donneurs comme des témoins négatifs de l'étude.
Et vous avez cherché des bartonelles donc dans le sang de ces deux groupes de personnes.
Voilà.
Et donc, tout simplement, en fait, comment ça se passe, rechercher des bartonelles? En fait, si j'ai bien compris, j'ai vraiment cherché les bactéries elles-mêmes. Vous n'avez pas simplement fait une PCR, vous avez isolé ces bactéries. Alors, pourquoi chercher les bactéries et pas simplement faire une PCR?
Alors, en fait, il y a beaucoup d'études dans la littérature qui montrent, qui décrivent des bartonelles, et en particulier Bartonella encélée et de l'ADN de Bartonella encélée, dans différents types de patients piqués par des tiques ou pas, voilà. Mais beaucoup critiquent en fait ces études en disant que cela ne démontre que la présence de l'ADN, c'est pas une démonstration que les bactéries sont vivantes et ce n'est pas une démonstration que les bactéries sont à l'origine de la maladie qui est constatée. Donc d'emblée, on a pris cette option en fait de ne pas rechercher l'ADN, mais d'aller tout de suite essayer de cultiver les bactéries à partir du sang de ces personnes.
Alors, donc comment on fait? On a le sang, comment on fait pour faire pousser des bactéries comme ça à partir du sang?
Eh bien, en fait, donc en général, ce qu'on fait, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des bactéries qui sont intra-érythrocytaires. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met le sang au congélateur à moins 80 ou à moins 20 pour faire éclater en fait les globules rouges. Et ensuite, donc, on prélève environ 100 microlitres qu'on va étaler sur une boîte de pétri, donc qui contient le milieu dont on a parlé tout à l'heure, avec qui est enrichi de sang de mouton. Et ensuite, on le place à 35 degrés dans une atmosphère enrichie en dioxyde de carbone. Et après, on attend que les bactéries veuillent bien pousser. Et en général, c'est assez long. Ça peut prendre entre une semaine, dans le meilleur des cas, jusqu'à, on va dire, entre 1 et 2 mois.
Et en fait, sur cette boîte de pétri avec son milieu gélosé, chaque fois qu'une bactérie est déposée en fait quelque part sur la surface de la gélose, comme le milieu est favorable, en fait, elle va commencer à se multiplier sur place et elle va former ce qu'on appelle une colonie, c'est ça, une sorte oui. de petit amas qui va apparaître à la surface. Et chaque fois qu'il y a une colonie, en fait, ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y avait une bactérie qui s'était déposée. Et du coup, c'est ce que vous comptez, vous, c'est les colonies. C'est pour ça que vous parlez après en unité CFU, Colony Forming Unit. En fait, c'est chaque colonie étant partie d'une unité, donc d'un individu bactérien, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Et ainsi, on peut calculer le nombre de bactéries ou donc d'unités formant colonies qui étaient présentes dans le sang de la personne analysée, donc dans un millilitre de sang.
Donc en fait, il faut bien étaler justement, parce que s'il y a trop de bactéries, ça va faire un voile complet de bactéries, vous n'allez pas pouvoir compter en fait.
Alors en fait, ce qu'on fait, c'est que si on a trop de bactéries, on fait des dilutions du sang, mm-hmm. hein, on l'étale pas pur. Lorsqu'on étale ce sang pur, si on voit qu'on a toute une couche de bactéries et qu'on n'arrive pas à les compter, eh bien on reprend le sang initial et puis on le dilue un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'on ait un nombre d'unités formant colonies qui soit comptable.
D'accord. Et juste une petite question comme ça de curiosité, ça ressemble, la colonie de Bartonelle, vous allez la reconnaître à son aspect assez rapidement, vous savez
Alors,
la reconnaître?
Alors oui, avec un petit peu d'habitude, on les reconnaît, mais on confirme toujours que ce sont bien des bartonelles. En fait, ce sont des petites colonies, toutes petites colonies qui poussent donc très, très lentement. Donc, si vous avez des colonies qui poussent après 48 heures ou 24 heures, ça déjà, c'est sûr que ce ne sont pas des bartonelles. Donc, elles mettent un certain nombre de temps à pousser, au minimum une semaine, ou je dirais même presque au minimum 15 jours. Et donc, ça forme des toutes petites colonies grises qui sont assez rugueuses. Et voilà, donc on est habitué à les voir et à les reconnaître, mais une fois qu'on a ces colonies, malgré tout, on confirme toujours que ce sont bien des bartonelles en prélevant donc ces colonies sur la gélose, et on recherche en fait des gènes qui sont spécifiques des bartonelles, et on les séquence et on voit qu'on a bien ces espèces ou ce genre.
Donc, c'est là que donc dans un premier temps vous avez les bactéries vivantes, mais après vous allez quand même les analyser l'ADN,
oui,
et faire tout le processus plus habituel de PCR, etc. Alors ça vous permet de savoir que ce sont des bartonelles, mais ça vous permet aussi d'identifier de quelles bartonelles il s'agit, et même éventuellement de les rapprocher de souches connues qui sont déjà connues en laboratoire.
Oui, tout à fait. En fait, en analysant leur ADN et en comparant en fait avec ce qui est présent dans les banques de données, les ADN présents qui ont déjà été séquencés et qui sont présents dans les banques de données, eh bien, on peut dire que la souche qu'on a isolée, eh bien, elle ressemble à tant de pourcents à telle espèce de bartonelle ou telle souche de bartonelle.
Sauf que là, en fait, si j'ai bien compris, vous avez trouvé des bartonelles que vous avez pu rapprocher de souches, mais ce n'était pas ces souches-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez identifié, isolé des nouvelles souches de bartonelles.
Alors voilà, donc ce ne sont pas des nouvelles espèces, hein, c'était des espèces connues de bartonelles, mais en revanche, c'était de nouvelles souches. Mais ça, ce n'est pas très étonnant parce qu'il n'y a pas de souches qui se ressemblent. En fait, du moment où on isole une bartonelle d'un animal différent, elles vont avoir évolué. Si on séquence la totalité de son ADN et si on les compare, on trouvera toujours quelques différences.
Oui, mais l'intérêt, on va dire, c'est que puisque ce ne sont pas des souches qui sont connues dans les laboratoires, on ne peut pas dire que c'est une contamination par une souche de laboratoire.
Voilà, ça prouve qu'on a quelque chose de nouveau, donc ce n'est pas une contamination, effectivement.
Et donc, alors c'était assez amusant quand on lit l'article, les souches sont baptisées MVT01, MVT02, donc je n'ai pas tout de suite compris, mais là, en fait, je dis, c'est vos initiales, en fait, MVT.
Oui, en fait, lorsqu'on fait ce genre de choses au laboratoire, eh ben, on donne des noms et en général, on met nos initiales. Et puis voilà, donc, j'ai trouvé que c'était amusant de conserver le nom de ces souches pour l'article, en fait.
Et ces souches, maintenant, sont disponibles pour d'autres laboratoires. Elles sont conservées, elles sont conservées à l'Université d'Aix-Marseille, c'est ça, dans le Centre national
des
références.
Oui, voilà, en fait, eux, donc, ils sont, c'est le Centre national de référence des rickettsies, des coxillas et des bartonelles. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle nous avons fait cette étude avec eux. Et ils ont conservé dans leur sous-sothèque, on va dire, ces isolats-là qui sont disponibles, en fait, et que n'importe qui peut demander s'il le désire.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est l'amant, le sommet, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néon, c'est la pie qui chacasse, c'est l'averse qui verse, des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas long, c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson, un geste, c'est comme du fifarjon, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un joli bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court.
Vous écoutez Médiatique, on parle de la découverte de bartonelles dans le sang de patients humains piqués par des tiques, avec Muriel Vessietosa. Alors donc, on va parler maintenant de résultats chiffrés, parce que vous aviez 66 patients, vous me dites on a trouvé des bartonelles, mais chez combien de patients en fait vous avez trouvé de bartonelles, et puis combien de souches ça représentait chez ces patients?
Donc en fait, on a trouvé sur ces 66 patients, on a trouvé 6, parmi ces 66 patients, nous avons pu isoler 6 souches, à partir donc isolées de 6 patients. sachant que lorsqu'on a fait la même chose avec le groupe témoin, dont les donneurs de sang anonymes, on n'a jamais réussi à isoler de souche de Bartonelle.
Oui, parce que là, effectivement, on pourrait dire, bon, 6 patients sur 66, c'est pas grand-chose. Mais en fait, si on compare, ça fait à peu près 9% quand même des gens qui ont des bartonelles dans le sang. Et sur le groupe témoin de gens qui sont pas malades, il n'y avait aucune bartonelle de trouver. Et donc, c'était 6 souches différentes en plus. Donc, ça se rapprochait de quoi quand même ces différentes souches? Donc, 6 souches qui sont quoi comme bartonelles?
Alors, en fait, il y avait 2 ou 3 souches qui étaient qui appartenaient à l'espèce Bartonella ncellae dont on parle depuis le début de l'émission. Alors ça nous a pas vraiment surpris hein, puisqu'on savait déjà que c'était une bactérie qui était responsable de maladies chez l'homme, qu'on pouvait la retrouver chez l'homme. Nous on avait montré que les tiques en laboratoire étaient capables de la transmettre. Donc on retrouvait chez ces patients des bactéries qui appartenaient à cette espèce. Donc c'était très intéressant, mais il y avait finalement rien de très nouveau. En revanche, on a trouvé 3 autres souches qui appartenaient à 3 espèces différentes qui en fait n'avaient jamais été isolées chez l'homme. Donc il s'agit de 2 espèces qui infectent normalement les rongeurs. Donc il s'agit de Bartonella dauchier et de Bartonella tribocorum. Donc il y en a eu une tribocorum qui infecte les rats et dauchier elle infecte plutôt les petits, les mulots, les campagnols. Et une autre espèce qui s'appelle Bartonella schoenbuchensis, qui est une espèce qui infecte les cervidés.
Et donc ça n'avait jamais été mis en évidence dans un être humain. Voilà. Et donc, on va revenir à l'aspect clinique, justement. Alors, quels étaient les symptômes dont se plaignaient ces patients qui, finalement, ont des bartonelles dans leur sang?
Alors, comme je vous l'ai dit, c'était des symptômes assez peu spécifiques, des symptômes chroniques. Donc, c'était des personnes qui pouvaient avoir des grosses fatigues, très grosses fatigues. Hein, c'est pas juste, on est un petit peu fatigué comme ça, comme tout le monde. Il pouvait y avoir des douleurs musculaires, des fièvres. Et parfois aussi, ce sont des symptômes qui peuvent disparaître un certain temps, puis réapparaître. C'est des choses assez récurrentes. Voilà, donc beaucoup de symptômes différents et assez peu spécifiques.
Alors dans les résultats bruts, quand on regarde les chiffres, on avait 5 patients qui avaient à peu près entre 50 et 80 bactéries par millilitre de sang, ce qui paraît déjà pas mal, mais il y en avait un qui en avait 850. Donc lui, il était vraiment beaucoup plus infecté que les autres et je pense que c'est lui qui avait justement de la fièvre de façon assez régulière.
Oui.
Donc il y a quand même assez intéressant parce que ça montre aussi une ébauche, enfin c'est pas des preuves, mais quand même un début de corrélation entre la présence de bactéries et un certain nombre de symptômes.
Ouais.
Et puis tous ces symptômes justement ne sont pas des symptômes spécifiques, on en parle aussi pour les Lyme chroniques en fait. Mais là, ça ouvre quand même des perspectives très intéressantes par rapport à ça. Donc quelles étaient finalement les conclusions que vous avez tirées de cette étude avec les médecins?
Eh bien, en fait, première chose, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que les personnes les personnes qu'on a analysées, c'était toutes faites piquer par des tiques. Il y avait plus d'un an à peu près après l'apparition des symptômes et au moment où on les a analysées. Donc, il est toujours très compliqué de faire un lien direct entre la piqûre de tique et la présence d'un agent pathogène. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, premièrement, on retrouve différentes espèces de bartonelles chez l'homme et des espèces qu'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent, donc chez l'homme, qui souffrent de symptômes chroniques non spécifiques et que, par ailleurs, ces personnes ont été piquées par des tiques. Donc, la preuve de... Enfin, c'est très compliqué d'apporter la preuve dans ces cas précis qu'ils ont été contaminés par des morsures de tiques. Cependant, si on rapproche cette étude aux conclusions d'autres études qu'on a menées, à savoir que les tiques sont des vecteurs compétents pour Bartonella et qu'on trouve des bartonelles dans le sang d'un certain nombre de malades présentant des symptômes persistants après morsure de tiques,
on va dire que c'est une présomption.
On peut dire qu'il y a de fortes suspicions, très fortes suspicions, que les bartonelles sont transmises par les tiques, peuvent être transmises par les tiques et donner ce style de symptômes chez l'homme. Mais il y a encore, à mon avis, de quoi encore creuser et explorer pour vraiment impliquer cette fois-ci de manière définitive les bartonelles dans ce genre de symptômes qui apparaissent après la piqûre de tique.
Mmh. Donc on a vraiment raison de dire qu'on va, devoir revenir sur les bartonelles dans les années qui viennent et que ça va vraiment être un sujet d'étude nécessaire en médecine humaine aussi bien que pour les animaux.
Ben je pense, oui.
Très bien, docteur Vessier-Tossa, merci beaucoup.
Ben merci à vous.
Pour compléter cet entretien avec Muriel Vessier, nous avons posé quelques questions au docteur Philippe Raymond, co-auteur de cet article. Docteur Philippe Raymond, bonjour.
Bonjour Sophie Dubé.
Alors on va parler des patients qui étaient dans cette expérience conduite avec Muriel Vessier, avec Didier Raoult. Sur les 66 patients, en fait, est-ce que c'était tous vos patients à vous ?
Non, en fait, on s'est débrouillé pour récupérer un certain nombre de sérums de patients et avec tout notre réseau, il y a 14 médecins qui ont envoyé 66 sérums à Muriel Vessier. Personnellement, j'en ai envoyé 10 sur ces 66.
Vous pouvez nous rappeler quels étaient les points communs de ces différents patients ?
Alors, au départ, on cherchait des patients qui avaient donc premièrement été mordus par une tique, deuxièmement, qui avaient des symptômes, évidemment, qui traînaient depuis cette morsure de tique. Et enfin, des patients chez qui on ne trouvait pas une sérologie satisfaisante en Borrelia et où on imaginait qu'il y avait d'autres bactéries co-infectées sous-jacentes.
Et avec le recul, finalement, vous avez trouvé donc des bartonelles chez certains de ces patients et pas chez les autres. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans la symptomatologie de ces patients qui était particulier et qui permettent rétrospectivement de les distinguer, de distinguer des patients atteints de bartonellose de patients atteints d'une autre maladie à tique ?
C'est une question délicate. En fait, on est en pleine c'est une pathologie, une recherche qui est émergente. Au niveau clinique, je pense que les 14 médecins avaient eu du nez pour chez ces patients, puisque sur les 66, au départ, il y en a quand même plus de 30 qui avaient des PCR positives. Dans l'article, on parle uniquement de bactéries émises sur 6 patients, mais on avait quand même la moitié de ces patients-là qui étaient positifs en PCR à Bartonelle.
Donc là, il faut que je vous arrête quand même pour faire une parenthèse, parce que dans l'article, vous parlez de 6 patients, et là, vous venez de parler de plus de 30 patients. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence et nous dire finalement quel était le pourcentage de malades infectés par Bartonella dans cette expérience ? C'était 6 ou bien 30 ?
Sur ces 66 patients, sur ces 66 sérums qu'on a envoyés, ce qu'on a pu trouver, c'est 50% de positivité en Bartonelle, en PCR à Bartonelle. C'était énorme. C'est pas dit dans l'article, puisque dans l'article, on parle uniquement des souches de Bartonelle qu'on a réussi à faire pousser. C'est très difficile de faire pousser des souches de Bartonelle, et il n'y en a que 6 qui ont poussé. Par contre, ce qui est énorme, c'est qu'on a quand même, sur ces patients-là, 50% de positifs en PCR à Bartonelle.
Mais ça suffisait pas à convaincre les détracteurs de l'hypothèse Bartonelle.
Non, ça suffisait pas. Il leur faut maintenant des bactéries émies chroniques à Bartonelle, donc c'est ce qu'on a pu mettre en place. Et l'article au départ était conçu en parlant de ces 50% de positivité à PCR et au fur et à mesure des sélections, parce que ça fait un an et demi que l'article qu'on a essayé de le faire publier, et à chaque fois il a fallu revoir le texte. Et pour le faire publier, il a fallu être plus précis, plus ciblé, et on a parlé uniquement de la bactériémie.
Donc les 6 malades sur 66, c'est vraiment un minimum en fait de gens qui avaient une bartonelle.
C'est ceux chez qui on a pu prouver que la bartonelle, on a pu identifier les souches de bartonelles qui ont poussé en culture.
Et avec des bartonelles vivantes qui ont pu être isolées.
Avec des bartonelles vivantes, effectivement. Et ça c'est une première mondiale. Et ça fait taire les détracteurs. Qui peuvent nous dire « Ah oui, mais c'est peut-être de l'ADN mort de Bartonelle qui n'existe plus ou je ne sais pas quoi. » Donc à ce moment-là, on a vraiment de la Bartonelle vivante. Sauf que c'est que sur 6 prélèvements parce que c'est très difficile à faire pousser.
Donc on va revenir maintenant sur les symptômes de ces patients qui étaient atteints de bartonellose.
Donc c'était des patients qui nous posaient problème, qui rechutaient, c'était plutôt la clinique en elle-même n'était pas différente, mais c'était des patients plus lourds, plus anciens, plus chroniques, je pense.
Donc vous pouvez dire que vous avez quand même progressé dans le diagnostic des bartonelloses grâce à cette expérience. Maintenant, parmi vos patients, vous avez plus de, enfin, on va dire un peu plus d'arguments pour pister une bartonellose chez l'un de vos patients.
En fait, déjà, on sait que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croyait. On sait que donc il faut y penser. On sait que si on demande des tests PCR, ils reviennent quand même dans certains cas positifs. Et Après, au niveau clinique, on n'a pas d'éléments très précis pour nous faire dire que c'est une bartonelle, puisque ces symptômes sont un peu similaires de ceux de la borrelia. Par contre, quand ça traîne et que ça rechute, il faut savoir évoquer les bartonelles, oui.
Alors, ce qui intéresse beaucoup les gens qui sont concernés, c'est finalement, une fois qu'on a réussi à mettre une étiquette Bartonellos sur les symptômes qui perdurent, qu'est-ce qui change au niveau du traitement, dans la stratégie de traitement ?
Alors oui, le problème avec cette maladie de Lyme et ses co-infections, c'est que un certain nombre des co-infections peuvent être sensibles aux mêmes antibiotiques que ce qu'on donne pour la borrelia, et ça pose pas trop de problèmes. Par contre, il y a d'autres co-infections, comme vous le savez, qui sont des protozoaires ou des candidats ou certaines bactéries qui vont demander des traitements différents. Et la bartonelle, c'est un traitement un peu plus compliqué apparemment. Je dis apparemment puisque comme je vous l'ai dit, c'est émergent. Les Américains travaillent beaucoup sur ce sujet actuellement. Et les spécialistes américains et belges sur ce sujet s'accordent pour dire qu'il faut un traitement donc de deux antibiotiques plus ciblés pendant une période prolongé quand même de 3 à 6 mois, et on se débarrasse pas facilement de ces bartonelles.
Une question un petit peu plus personnelle par rapport à vos patients, suite à cette expérience, donc ces patients, parmi les 10 que vous aviez donc fournis, il y en avait qui ont eu une PCR, la PCR, ouais. Oui sûrement, mais même des bartonelles isolées chez vos patients.
Alors, sur les 10 de sérum que j'en avais envoyé, il y en a 5 sur les miens qui sont revenus positifs, ce qui était la moyenne des médecins, hein, 50%, positif en PCR. Je ne crois pas que ça dans les 6, ce n'était pas des patients à moi qui ont poussé, mais je peux pas avoir Là, vous me posez une question un peu délicate, puisque les bactéries hémipures, j'ai pas réussi à avoir les... On n'a pas les noms exactement des patients.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Quand je reprends, donc sur mes 10 patients, 5 étaient positifs en PCR, en bartonelle, ce qui est la moyenne des autres médecins, c'est-à-dire 50%. Et c'est sur ces 5 patients que j'ai traités, on a eu des très bons résultats, puisque au bout de 2-3 mois, les PCR s'étaient négativés.
Très bien. Donc il y a de l'espoir.
C'est des patients qui vont mieux, mais qui vont lentement mieux pour d'autres raisons que vous connaissez dans le Lyme chronique qui s'est chronicisé. Oui, il y a évidemment de l'espoir, puisqu'on découvre tous les jours des nouvelles bactéries, des nouveaux protocoles. J'espère qu'on aura de nouveaux examens plus pertinents dans les années à venir.
Très bien. Docteur Philippe Raymond, merci.
Merci beaucoup.